Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette rencontre autour d'une biographie sur André Gortz, écrite par Monsieur Willy Gianinazzi. André Gortz, une vie, publiée aux éditions La Découverte. Donc oui, Gianinazzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous êtes l'auteur en 2006 d'un ouvrage sur Georges Sorel, Naissance d'un mythe moderne, Georges Sorel et la crise de la pensée savante 1889-1914. Vous avez été secrétaire d'édition aux éditions de l'EHESS, et chercheur associé à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine pour le Fonds André Gortz. Bon, André Gortz, pour le présenter très très rapidement, puisque ça va être l'exposé que vous allez nous parler incessamment, est l'un des penseurs majeurs de l'après-capitalisme et de l'écologie politique, et dont nous allons voir ensemble que l'ouverture sur le monde lui a permis aussi d'intégrer à ses écrits différentes visions critiques et sociales, tout en restant fidèle, et c'est important, à la permanence de thèmes comme la critique de l'aliénation, la consommation et le travail, l'éloge de l'autonomie et du temps libéré.
Bonsoir. Je vais immédiatement essayer de définir d'un mot sa pensée. André Gortz a publié 18 livres à partir de 1958 jusqu'à 2007, date de sa mort. Un livre est paru posthume l'année d'après. Alors si je devais définir en un mot sa pensée, je dirais que c'est un philosophe du sujet en quête de son autonomie. Alors autonomie, vous savez, ça veut dire littéralement se donner ses propres lois. En l'occurrence, être libre en donnant un sens à la vie. Et du coup aussi un sens au travail, puisque le travail est une grande partie de notre vie, du moins en régime capitaliste. S'il y a une caractéristique de son œuvre, c'est qu'elle n'a cessé d'évoluer au gré des transformations du capitalisme pour mieux dégager la voie de cette autonomie qui se révèle à lui au cours des années comme une exigence existentielle de nature anticapitaliste. Enfin, s'il fallait classer son œuvre par genre, je dirais qu'elle a oscillé entre littérature, journalisme et philosophie. C'est dire que selon les différentes générations de militants ou types de lecteurs, Gortz peut être connu sous des facettes différentes. Je vais retenir ce soir quatre de ces facettes. La première, c'est le romancier tourmenté, doublé du philosophe existentialiste, qui a produit plusieurs récits autobiographiques, dont certains restés inédits. À la fin de sa vie, Gortz a écrit un émouvant récit de sa vie de couple intitulé « Lettre à D », publié un an avant son suicide, que le récit annonçait à demi-mot. Ce récit l'a fait connaître un large public qui parfois ignore tout de ses autres écrits. Je ne sais pas si c'est votre cas. Le deuxième moment que je vais présenter, c'est le marxiste des années 50-60, avec ce qui se passe pour lui en 68. Il va être très, très marqué par 68. Le troisième moment, c'est le journaliste, notamment au Nouvel Observateur, qui, pendant les années 70, découvre l'écologie. Enfin, le quatrième moment, qui est le plus important quand même, c'est le philosophe qui critique la place du travail dans la vie. Alors, la première facette littéraire existentialiste, je précise donc qu'André Gortz est né à Vienne en 1923. En 1939, à 16 ans, sa mère l'inscrit dans un lycée en Suisse orientale où il passe son bac deux ans après. Et pour éviter l'enrôlement dans l'armée du Grand Reich, il reste en Suisse, où à Lausanne, il étudie la chimie et s'adonne à la langue française. Ses études ne l'intéressent pas. Il passe son temps à écrire toutes les nuits pendant des années. Un journal, des romans jamais aboutis, un énorme traité de philosophie qu'il publiera lorsqu'il sera connu seulement en 1977 sous le titre « Fondement pour une morale ». À Lausanne, Gortz lit beaucoup. Il lit Paul Valéry, Kafka, Georges Bataille. Il étudie Kierkegaard. Tout ça pour dire qu'il développe une réflexion pessimiste, désespérée, nihiliste, solipsiste. Je crois que j'ai tout dit. Son refus d'exister, ses pensées suicidaires de l'époque, cachent en réalité un problème d'identité. Enfant, il est tiraillé entre un père et une mère qui se chamaillent. Le père est juif et la mère catholique de famille antisémite. C'est elle qui pousse son mari à changer de nom en 1930. Le fils, qui a 7 ans alors, ne s'appelle plus Hirsch, mais s'appelle Horst, précisément Gerhard Horst. Voilà, vous venez donc d'apprendre qu'André Gorz est un pseudonyme. Il le choisit à l'occasion de la publication d'une autobiographie en 58. C'est son premier livre qui s'appelle « Le traître », dans lequel il malmène ses parents et il a une peur panique que sa mère découvre le roman. C'est pour ça qu'il prend un pseudonyme et veillera à ce que ce pseudonyme soit protégé jusqu'à la réconciliation avec sa mère qui aura lieu en 1982. Donc un âge très avancé pour cette dame. Mais tout change du point de vue philosophique pour Gorz, c'est sa rencontre avec Jean-Paul Sartre. Sartre vient faire une conférence à Lausanne en 1946. Gorz connaît déjà « L'être et le néant », sorti en 1943. Le nihilisme de Gorz est alors dépassé. Je retiens une phrase que Sartre lui dit en 1946 à Lausanne. Il lui dit « Quand bien même ce monde serait injustifiable, comme vous allez en répétant, il ne faut pas le rejeter et s'isoler, il faut prendre parti. » Et en effet, pour Gorz, la philosophie existentialiste du sujet consiste dès lors à considérer l'individu comme se construisant par des choix, soumis certes au conditionnement du passé enfantin et du contexte social du présent. Ces choix sont cependant passibles de liberté, car il y a toujours, psychologiquement, comme une non-identité avec soi. Nous avons toujours un quant à soi, un moi intime inviolable. En disant ça, je pense à Ronald Lang, l'antipsychiatre sartrien, qu'il avait écrit dans son « Moi divisé », un vieux livre. Et Gorz est ravi de le découvrir beaucoup plus tard dans l'œuvre du francfortien Axel Honneth. Et il y a toujours socialement, je le cite, un décalage ressenti, vécu, souffert, entre ce qu'on a à être pour fonctionner dans la société et ce que l'on ressent diffusément. On n'est jamais complètement intégré. La socialisation par le travail, par exemple, n'est jamais totale ni la seule possible. Ce sera là le point de divergence avec Herbert Marcuse, qui va devenir son ami. Contrant son pessimisme, Gorz lui faisait observer en 1962 déjà que l'aliénation n'est jamais complète, il y a toujours une marge de rébellion. Marcuse en conviendra en 68. À partir de l'existentialisme et aussi de son expérience personnelle de non-identité, Gorz proclame un principe que les communautaristes et les identitaires républicains laïcs d'aujourd'hui feraient bien de méditer. Je le cite, « Les individus ont à se construire eux-mêmes leur identité, à chercher eux-mêmes ce qui est juste, à former eux-mêmes électivement les communautés auxquelles ils puissent se sentir appartenir. Cette condamnation à l'autonomie est leur lot commun. » Gorz comprend donc la philosophie, je cite, « comme la tentative de se comprendre, de se découvrir, de se libérer, de se créer, de sorte que se pose aussitôt la question de l'aliénation et de son possible dépassement. Aliénation d'un côté, autonomie de l'individu de l'autre deviennent alors des catégories maîtresses de sa philosophie. » J'en viens au deuxième moment que j'ai choisi, le moment marxiste et politique de Gorz. Il adhère au marxisme dès les années 50, lorsqu'il arrive en France, en 1949. Il s'installe à Paris. Il découvre en particulier les écrits du jeune Marx. Il défend du coup un marxisme humaniste où la volonté du sujet a toute sa place contre les versions staliniennes, scientistes, déterministes et plus tard althusseriennes. Il est en réalité en accord avec l'évolution pro-marxiste de Sartre qui le fait entrer dans sa revue « Les temps modernes » à la fin de 1960. Le marxisme de Gorz à l'époque fait moins porter l'accent sur l'exploitation que sur l'aliénation que subit l'ouvrier, soit sur l'oppression et la déshumanisation des conditions de travail. Il partage avec Marcuse l'analyse de l'aliénation des populations qui les affectent, non seulement sur le lieu de travail, mais aussi par la consommation effrénée qui les contraint à travailler éperdument. Il est alors, dans les années 60, influencé par ses contacts italiens, notamment au sein de la CGT italienne. Ce sont des idées qui ont cours également en France au PSU et à la CFDT. Et elles reflètent en réalité une mutation de la classe ouvrière en cours. On parle beaucoup à l'époque de la nouvelle classe ouvrière. On a l'impression que l'automatisation donne de l'importance aux ingénieurs et techniciens qui conçoivent, supervisent et se sentent à même de prendre en main la production, d'où l'idée d'autogestion que Gorz commence à envisager dans les années 60. Cependant, 68, ça va être un tournant, ça va ouvrir d'autres perspectives à Gorz. Comme vous savez, 68 ne se réduit pas au mai français. Ça a été un phénomène international qui s'est étalé d'ailleurs sur plusieurs années. Gorz est très marqué par ce qu'il voit aux États-Unis. Il voyage en 69, 70, 71. Il est influencé par la contre-culture américaine. Il est aussi très influencé par la nouvelle gauche italienne, qu'on appellera plus tard les opéraïstes. Alors, que retient-il donc de 68 ? Que les ouvriers en France, en Italie, ailleurs, aux États-Unis, ont moins manifesté le désir de maîtriser le procès de production en vue de le prendre en main qu'une insubordination à l'ordre de l'usine. Cette insubordination a investi la hiérarchie, les cadences, le travail aux pièces, etc. Cette insubordination a été de pair avec le refus du travail qui s'est manifesté partout dans l'Occident industrialisé par des taux très élevé de turnover, d'absentéisme, spécialement chez les jeunes. À la volonté de se libérer dans le travail, selon la tradition du mouvement syndical, le but étant le socialisme ou l'autogestion, c'est donc ajouter la volonté de se libérer du travail, ou en tout cas de ne plus faire du travail une question centrale et unique des luttes. L'horizon de cette deuxième tendance est moins la condition ouvrière que le cadre de vie, le but devenant dès lors l'autonomie. L'écologie politique naissante participe de ce second tropisme. Dans les années 70, Gorz joue sur les deux tableaux, comme d'ailleurs la CFDT de l'époque. Le troisième moment que je veux vous présenter, c'est le moment de Gorz journaliste. En fait, c'est son métier alimentaire. Il a commencé à Paris Presse, un quotidien conservateur, dès 1951. Il a travaillé jusqu'en 1955 dans ce journal. C'est alors qu'on demande à Gérard Horst, qui est son nom d'état civil, de prendre un pseudonyme français. Et il choisit le pseudonyme pour son travail de journaliste de Michel Bosquet. Il passe ensuite à L'Express en 1955, qui est un journal mondésiste dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, déjà un petit peu plus progressiste. Et en 1964, finalement, il participe à la fondation du Nouvel Observateur avec Jean Daniel et devient l'un des journalistes importants du magazine. Il faut dire que dans ses écrits inédits que j'ai retrouvés dans ses archives, il a une opinion de son métier de journaliste qui est très, très tranchée et qui était inconnue. Il pense que le journalisme, que pour faire du journalisme, il faut passer des compromis et qu'on est aliéné dans ce métier car, au fond, il s'agit de produire ce qu'il appelle une pensée sans sujet. Alors, après 68, il découvre la contre-culture américaine grâce à ses voyages aux États-Unis et en même temps le souci de l'écologie. Et c'est dans le Nouvel Observateur qu'il commence à écrire des articles sur l'écologie. En 1970, très tôt, il écrit un article intitulé « J'accuse ». Il dénonce la destruction par les industriels des biens communs, lui il appelle « biens publics » à l'époque, que sont l'air, l'eau, la végétation, la faune. Il demande dans ce même article de 70 à ce que les externalités négatives engendrées par l'industrie, déchets, pollution, soient incluses dans les coûts de revient. Par ses critiques précoces, Gorz se révèle comme l'un des promoteurs de l'écologie politique en France. Il est aussi, dès le départ, un théoricien de la décroissance. C'est lui qui invente ce néologisme. C'est moi qui l'ai découvert et je ne pense pas qu'il s'en ait aperçu. Mais il prononce le mot de décroissance lors d'un colloque sur l'écologie qu'il organise pour le compte du Nouvel Observateur le 13 juin 1972, où il y a Edgar Morin. Il invite aussi son ami Marcus. Gortz est en fait un lecteur attentif de l'économiste d'origine roumaine qui travaille aux États-Unis, Nicolas Georgescu-Roegen, qui est, lui, le véritable père de la décroissance. Mais il n'emploie pas le mot. C'est Georgescu-Roegen qui fait remarquer ce qui paraît logique, évident aujourd'hui, qui fait remarquer l'absurdité qu'il y a utilisé indéfiniment des ressources minérales et fossiles qui sont forcément limitées. Non seulement on épuise les stocks pour les générations futures, mais en les exploitant, on produit des déchets et pollution infinies. Pour Gortz, mais aussi à l'époque pour les experts du MIT, le fameux Institut technologique du Massachusetts, qui font en 72 un rapport fracassant aux industriels du Club de Rome, intitulé « Halte à la croissance », et le rapport Medov. Le seul moyen de parer à cette destruction de la biosphère, c'est de réduire la production des pays riches. Donc déjà en 72, cette proposition est avancée, et pas seulement par Gortz. Gortz, en restant sur cette même ligne de décroissance, pense que les politiques du développement durable ne sont que des solutions en trompe-l'œil, qui ne remettent pas en cause la folie destructrice de la croissance à tout prix. Il pense que l'on peut vivre mieux en produisant moins, c'est un de ses slogans, moins de gaspillage, plus de durabilité des biens, frein à l'obsolescence symbolique des marchandises obtenues par la publicité, par leur renouvellement incessant, et donc finalement en travaillant moins. Alors comment conçoit-il l'écologie ? Alors, bien sûr, non pas comme un environnementalisme, c'est-à-dire une protection stricto sensu de la nature, ni comme une science produisant une expertocratie guidant les politiques, mais comme une écologie politique, c'est-à-dire une politique qui a pour objet le milieu de vie. De même que pour Adam Smith, il n'y avait pas une science de l'économie, mais une politique de l'économie ou économie politique. C'est exactement la même optique. Le milieu de vie, pour Gortz, comprend la nature, bien sûr, mais aussi le monde vécu, qui est une catégorie qu'il reprend du phénoménologue Edmund Husserl, que Gortz place dans son estime au moins au même niveau que Sartre, c'est-à-dire tout ce qui a trait au quotidien de la vie en société. Gortz parlait aussi de culture du quotidien. Alors la gamme est très vaste, hein, il s'agit de l'urbanisme, l'alimentation, le rythme de vie, les liens sociaux, les savoir-faire vernaculaires, la maîtrise du corps, comprenant le droit à l'avortement, la médecine alternative, l'herboristerie non industrielle, etc. Plus tard, Gortz englobera tout cela en parlant de la bonne vie, qui ressemble assez comme conception au buen vivir des Espagnols aujourd'hui. Alors, défendre l'écologie, promouvoir la décroissance, faire valoir leur logique non marchande, imposer le critère existentiel du suffisant, qui est un critère que Gortz a très présent et développe dans un article fondamental de 1992. Voilà, tout cela présuppose le renversement de la logique productiviste du toujours plus et donc le renversement du système capitaliste. Pour lui, décroissance va avec renversement du système capitaliste. On ne peut pas faire la décroissance dans le système capitaliste. Cela équivaudrait à dépression, austérité, chômage, etc. En cela, il rejoint le radicalisme de l'éco-anarchiste américain Murray Bookchin. Ça m'avait assez marqué, cette analogie. Alors que Gortz connaît très tardivement Bookchin et que Bookchin, je crois qu'il est jaloux, n'aime pas Gortz, il le traite de marxiste excessif. Dès 72, au contraire, Gortz s'enthousiasme pour l'œuvre d'Ivan Illich, le contenteur de l'hypertrophie technologique qui, au lieu de servir les hommes, les a servis. Il est très marqué par la critique que fait Illich des dérives de la technologie moderne. Ils deviennent amis et je me suis aperçu qu'ils s'influencent aussi mutuellement. Mais que pense Gortz exactement de la technologie. Alors pour lui, la technologie n'est jamais neutre. Elle est toujours au service du système économique. Mais Gortz n'est pas un technophobe radical. En cela, il se sépare de Ellul. D'ailleurs, ça me fait un certain effet de parler de Gortz ici à Bordeaux, puisque c'est la ville de Jacques Ellul. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait que les deux n'ont pas eu de contact, que Gortz a connu Ellul très, très tardivement. J'ai une explication comment cette non-rencontre a eu lieu. Donc la technologie n'est pas neutre pour Gortz. Elle est toujours au service de l'économie. Elle est parfois créée, d'ailleurs, à cause d'exigences militaires. Mais Gortz pense aussi que certaines technologies, pas toutes, pas la vidéosurveillance, mais certaines technologies peuvent être dévoyées vers des usages favorisant l'autonomie. Il est enthousiaste par les possibilités qu'offrent les logiciels libres. Il est enthousiaste par la possibilité de mise en réseau et d'échange de savoir via Internet. Il est aussi emballé par les possibilités qu'offrent, à son avis, les imprimantes 3D, des possibilités d'autoproduction locale en coopérative. Voilà, donc une critique de la technologie qui n'est pas radicale chez Gortz. Il y a des possibilités d'utiliser la technologie à des fins de libération. Je pense la même chose, effectivement. Je vois pas comment j'aurais fait ce livre sans l'aide d'Internet, de tout ce que j'ai trouvé sur Internet, effectivement. Bon, j'en viens à la partie... la plus importante, qui est la critique du travail. En fait, Gortz, les analyses de Gortz s'inscrivent toujours dans les profondes mutations que le capitalisme connaît. Il a toujours essayé de voir quelles étaient les possibilités d'accroître l'autonomie de l'individu en tenant compte des évolutions du capitalisme, quelles étaient les voies d'issue. Et le capitalisme connaît, à partir des années 70, hein, on peut même préciser la date, à partir de la crise pétrolière de 1973, une mutation phénoménale. Les Trente Glorieuses marquées par la croissance prennent fin. Après la première révolution industrielle, caractérisée par l'essor des manufactures, la vapeur, la deuxième par le pétrole, l'électricité, débute la troisième, qui est en fait très très différente des deux précédentes, parce que c'est désormais une révolution post-industrielle et en plus avec une faible croissance. C'est tout à fait nouveau. Les deux autres révolutions industrielles avaient marqué une croissance du capitalisme extrêmement importante. En fait, à partir des années 70, le capitalisme est confronté à deux problèmes, l'instabilité, la fluctuation des marchés, d'une part, et la force de blocage des syndicats, d'autre part. Ces deux problèmes sont combattus de plusieurs façons, par une production élastique à flux tendu, c'est la première grande nouveauté, qui présuppose l'élimination des blocages de la conflictualité sociale, par l'automatisation poussée avec robotisation, qui élimine justement ces blocages en réduisant la main-d'œuvre et par là même la force des syndicats. Ensuite, par la division accrue du travail à travers la sous-traitance, bientôt à l'échelle internationale. La sous-traitance emploie une main-d'œuvre docile, souvent non syndiquée, et module les effectifs en fonction de la demande, supportant ainsi les conjonctures difficiles. Pas seulement, ces mutations ont lieu également par l'introduction de l'informatique, qui, en déqualifiant les métiers et en économisant de la main-d'œuvre, réduit encore le coût du travail. Alors, quelles sont les conséquences sociales auxquelles Gortz est sensible ? Conséquences de ces changements du système capitaliste à partir des années 70. L'industrie voit diminuer les ouvriers en chiffre absolu. C'est en chiffre, depuis 1974, les ouvriers diminuent en France au profit des emplois de services très qualifiés dans l'informatique ou bien dans la restauration, la distribution, le nettoyage, l'aide aux personnes. Alors là, ce sont des emplois peu qualifiés. Le plein emploi disparaît. Le chômage devient massif. En France, il est de 7% en 1981. Il est de 10,9% en 1997 et a atteint 11% au début de cette année. Le précariat se développe. Ouvriers occasionnels, auxiliaires, vacataires, intérimaires, employés à temps partiel, ce sont des catégories en pleine expansion. Le résultat, à partir des années 80, est évident. Les politiques même s'en inquiètent. C'est l'apparition d'une société duale. Emmanuel Todd parlera de fracture sociale. Vous avez les salariés en CDI à plein temps et les autres précarisés. Les CDD sont d'ailleurs institués en 1979 et représentent 70 à 80% des embauches hier comme aujourd'hui. En 1980, Gortz fait le constat de tous ces changements en écrivant un livre qui représente une certaine rupture par rapport à ce qu'il a écrit précédemment et qui fait scandale. Il l'appelle « Adieu au prolétariat, au-delà du socialisme ». C'est un livre tournant dans son œuvre. Alors il commence par dénoncer l'anachronisme des idéologies marxistes centrées sur le prolétariat industriel qui, lui, est décimé et se délite. L'accroissement de la division spatiale, parfois internationale, du travail par le biais de la sous-traitance, la complexité accrue de la production avec l'automatisation, la cybernétisation. Tous ces facteurs rendent désormais impossible pour les travailleurs une vision globale du procès de production. C'est donc que l'autogestion devient chimérique. Ce qui émerge à la place du prolétariat classique, c'est, selon lui, ce qu'il appelle une non-classe de prolétaires industriels. Il pense aux précaires, aux chômeurs, des gens qui ne se reconnaissent plus dans le travail, qui ne se socialisent plus à travers le travail et qui cherchent, c'est le cas surtout des jeunes, à assumer eux-mêmes la production de socialité par un mode de vie fondé sur la liberté d'agir, à l'hétéronomie du travail socialement nécessaire, se juxtapose alors la possibilité de l'autonomie qui, dès lors, peut se développer hors travail. Marx parle de ce phénomène qu'il situe à un âge mûr du capitalisme. Il parle de ce phénomène en disant qu'on accède à ce moment-là à la vraie vie. Pour Marx, dans les Grundrisse, c'est le capitalisme aboutit à la vraie vie, c'est-à-dire à avoir suffisamment de temps libre pour développer ses propres capacités. Alors pour Gortz, l'hétéronomie, c'est-à-dire le travail nécessaire qu'il faut faire pour que la société marche, et l'autonomie, hors travail, peuvent être conçus comme des moments alternés dans la vie d'un sujet, d'un même sujet. C'est ainsi qu'on peut dépasser la société duale. Alors pour cela, il faut une chose, c'est une réduction du temps de travail massive, pour que tout le monde puisse travailler un peu et se réaliser ailleurs dans des activités autodéterminées. Alors, pour ce dernier but, il faut évidemment avoir des plages de temps assez grandes. C'est pourquoi Gortz a une idée particulière dans les années 80. Il ne l'invente pas, il la reprend du syndicalisme suédois. C'est celui d'un travail à la carte. Son idée, c'est la suivante. le volume de travail requis, nécessaire, au cours d'une vie, serait réparti librement sur la vie en échange d'un salaire à vie. Chacun pourrait organiser sa vie et son temps de travail comme il l'entend. Dans ce projet, le revenu est continu pour un travail discontinu. Le revenu n'est plus lié au temps de travail, mais reste quand même lié au travail. Avec cette formule, chacun pourrait se consacrer à des projets personnels, comme construire sa propre maison, se former pour changer de métier, faire un voyage, écrire un livre. Le mien a été écrit comme ça, hors travail. Élever des enfants, soigner ses parents, se consacrer à des activités artistiques, culturelles, militantes, etc. Donc, Gortz, dans les années 80, n'est pas du tout favorable à un revenu garanti inconditionnel qui est pourtant déjà discuté à l'époque. Et je vais en parler de cette idée du revenu garanti inconditionnel. Le débat existe déjà dans les années 80. Le terme n'est toujours pas défini. On parle de revenu social garanti ou allocation universelle ou revenu de base ou encore revenu d'existence. Je vais employer, moi, cette expression qui me paraît jolie. Le débat, j'ai dit, se développe dans les années 80, en 1985, grâce à un économiste belge qui est un libertarien de gauche, Philippe Van Paris, qui va devenir un ami de Gortz. C'est vrai que précédemment, l'idée a été avancée, notamment par des libéraux, Milton Friedman aux États-Unis, en France par le giscardien Lionel Stoleru. Mais cette fois-ci, c'est ça la nouveauté, cette fois-ci, cette idée est avancée dans une optique qui est de gauche et écologiste à la fois. C'est la revue du MOS d'Alain Caillé qui lance le débat en France en 1987. Mais Gortz, donc, n'est pas d'accord avec cette idée d'inconditionnalité, hein, je l'ai dit. Il veut lier travail et revenu à vie, quand même. Ce n'est qu'en 1996, presque 10 ans après, que Gortz finalement se rallie à l'idée de l'inconditionnalité du revenu d'existence, c'est-à-dire à son octroi sans aucune contrepartie liée au travail, y compris la recherche d'un emploi. Alors comment entend-il ce revenu d'existence à partir de 1996 ? Alors il commence par faire une discrimination entre version de droite et version de gauche. La discrimination, c'est le montant de l'allocation. Le montant doit être suffisant pour vivre sobrement. Sinon, le chantage à l'emploi demeure, avec de surcroît le danger d'une baisse des salaires. L'allocation assurant la différence, elle serait une subvention indirecte au patron. Donc le montant doit être suffisant pour que les gens puissent, s'ils le veulent, ne pas travailler, qu'il n'y ait plus ce chantage à l'emploi. À l'inconditionnalité de l'allocation doit s'ajouter aussi l'universalité. C'est-à-dire que tout adulte sur un territoire donné, depuis un certain nombre d'années, a droit à cette allocation. Ces deux critères assurent la non-stigmatisation sociale que subissent les chômeurs aujourd'hui. Le revenu d'existence doit se doubler de facilitations légales en faveur du temps de travail choisi pour permettre l'arbitrage des individus entre le travail subordonné et le niveau de revenu. Si les gens veulent gagner plus, ils peuvent choisir de travailler dans le système capitaliste, mais doivent aussi avoir la possibilité de choisir le nombre d'heures et ne pas être contraints de travailler à plein temps. Alors vous le voyez, le revenu d'existence renverse le rapport entre travail et revenu. Au lieu que l'on soit contraint de travailler pour avoir un revenu, on a un revenu pour œuvrer sans contrainte. C'est l'inverse. Le revenu d'existence est donc un moyen pour le déploiement hors travail subordonné de ses propres capacités, qui sont évidemment de toutes sortes, non seulement artistiques, politiques, scientifiques, culturelles, mais aussi productives. Il s'agit d'arracher à la mise au travail et de mettre à profit pour notre propre développement ce que Gortz appelle, Marx aussi, l'intelligence collective, qui est donné par notre niveau élevé d'instruction, par nos savoir-faire acquis dans notre vie personnelle et par la circulation gratuite du savoir qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. Gortz appelle cela la production de soi. C'est le seul concept que Gortz aura inventé dans sa vie, avec celui de décroissance. Mais enfin, production de soi, c'est vraiment un concept à lui. Le revenu d'existence suppose donc l'essor d'une autre économie, hors logique capitaliste, mais dont les germes existent déjà aujourd'hui. C'est l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie collaborative, c'est la défense ou la création de communs à travers les ZAD, le partage ou la mutualisation des services et des savoirs, c'est l'agriculture coparticipative, les AMAP, les jardins partagés en ville, échange de semences, ce sont les groupes d'entraide, ce sont toutes les autoproductions locales. Gortz, comme Bookchin, compte beaucoup sur les coopératives communales, Petri d'Hightech. Une autre richesse se crée ainsi. Elle est qualitative, uniquement fondée sur la valeur d'usage. Elle n'est plus mesurable par le PIB, qui calcule la croissance. C'est vraiment une autre économie qui est en train de naître. Serge Latouche, objecteur de croissance, parle carrément d'une anti-économie. À la fin de sa vie, Gortz entrevoit la possibilité d'une économie de la gratuité, le revenu d'existence qui distribue de la monnaie et maintient un lien avec le monde de la marchandise deviendrait alors superflu et ne représenterait qu'une mesure transitoire. C'est à la fin de sa vie qu'il arrive à cette conclusion. Donc pour Gortz, et je vais conclure, pour Gortz, des perspectives d'issue au capitalisme existent bel et bien aujourd'hui. Et je vais conclure par une phrase que je tire de la préface japonaise à l'un de ses livres, en 1993, que j'ai repris de ses archives en français. Alors, tout prédispose aujourd'hui à ce que naisse une société dans laquelle la richesse se mesurera au temps libéré du travail, au temps disponible pour les activités qui portent leur sens et leur fin en elles-mêmes et se confondent avec l'épanouissement de la vie. Voilà, alors je me suis dit, que faut-il lire de Gortz absolument ? Parce qu'on m'a posé la question et je n'avais pas su quoi répondre, mais donc là, j'ai réfléchi. C'est trois entretiens que j'ai recueillis de Gortz, dont deux très, très récents à la fin de sa vie. Et qui, c'était des entretiens qui étaient inédits en France, qui avaient été publiés au Brésil, en Allemagne, en Italie, etc. Et j'ai fait une petite introduction synthétique au cas où j'ai pas été, au cas où j'ai été trop long. Là.
Alors, merci beaucoup. J'aimerais juste qu'on revienne sur quelques éléments que vous aviez évoqués dans cette introduction à Gortz. Et j'aimerais qu'on revienne en fait sur cette question d'identité, sur le fait de l'utilisation de plusieurs pseudonymes et l'articulation que ça peut avoir entre son travail de journaliste, son activité de philosophe sous le nom de Gortz, et est-ce que ses collègues, ses confrères, étaient au courant de cette double identité intellectuelle ?
Alors, je fais un petit historique. Donc, Michel Bosquet, c'est le journal qui lui dit « Non, tu changes de nom, pas nom allemand ici ». Donc, c'est clair. D'ailleurs, Bosquet, ça veut dire « c'est une traduction de Horst hein, ». Donc, il n'y a rien de spécial là-dedans. Quand il publie son autobiographie, il ne choisit pas Bosquet parce que il y a des notes quand même très, très subversives. Il ne veut pas associer son travail littéraire, philosophique à celui de journaliste. Donc il se dit « bon, je dois prendre un autre pseudo. Il faut que ma mère ne soit pas au courant. Je vais prendre Gortz ». Lui, il expliquera que Gortz, ça lui rappelle la ville de Gortz, c'est Gorizia. Gorizia, qui est une ville italo-autrichienne à la frontière entre... c'est en Slovénie aujourd'hui. Donc une ville où il n'y a pas tellement d'identité, ils ne savent pas tellement bien. Et moi aussi, finalement, je ne sais pas très bien. Donc voilà comment il l'a expliqué. Il a... Bon, évidemment que ses proches savaient cette histoire de pseudonyme. Il y a des lettres furibondes de Gortz à ses copains quand ils disent « Ah, je vais dire à la radio qui tu es. »« Non, surtout pas, etc. » Mais à cause de sa mère, en fait. Hein. En 67, dans une lettre privée, il écrit « Oh, maintenant, je suis apaisé avec ma mère. Je la revois de temps en temps. Voilà, je lui réponds. » je lui reproche plus rien. Il arrêta d'avoir peur à 59 ans. À 59 ans. Mais alors, non, mais alors après, il faut voir comment la réconciliation se passe. Ce sont des lettres d'amour qu'ils s'échangent. Et Gorz écrit à sa mère, qui a 87 ou 90 ans, il lui écrit « Tu es une bonne mère, je t'ai toujours aimé, tu as toujours été une bonne mère », etc. C'est assez émouvant. Il a traité sa mère d'antisémite, d'avoir tout fait pour gommer la judaïté de son mari, de s'être mariée pour des raisons vénales, puisque son père lui disait « Non, tu ne vas pas marier un juif », mais le père était directeur d'une scierie, donc elle était secrétaire. Voilà, donc il lui reproche « Raisons vénales ». En tout cas, la réconciliation est très émouvante dans les lettres. Et la mère, à 90 ans, une femme très intelligente, elle lui envoie le journal qu'elle a écrit, le journal de vie de son enfant, qu'elle a écrit de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Eh bien, c'est que de l'amour, c'est que ça. En fait, Gorz n'a pas supporté d'être trop aimé par sa mère, quoi.
Est-ce qu'on peut revenir sur la non-rencontre avec Ellul, hein, que vous évoquiez très rapidement, oui.
Eh bien, alors, je vais associer avec Castoriadis. Il y a deux choses qui m'ont assez étonné. Enfin, je me suis posé la question, comment ça se fait que Gorz ne rencontre pas, même intellectuellement, Jacques Ellul, pourfendeur de la technique, et Castoriadis, théoricien de l'autonomie, lui aussi. Comment ça se fait ? Eh bien, pour les mêmes raisons. Il n'évolue pas dans les mêmes milieux. Je crois que Ellul à Bordeaux est isolé culturellement. C'est quand même significatif que Ellul n'arrive pas à se lier à la revue Esprit, alors qu'ils sont sur la même ligne. Donc là, c'est vraiment la Paris-Province. Il y a un problème comme ça. Ellul appartient à un autre univers culturel. Il est croyant. Gorz, Gorz ne peut pas s'intéresser. Personne lui a dit « Mais Ellul, c'est intéressant. Voilà. » Personne lui a dit « Mais il faut que tu lises Ellul. Voilà. » Et Castoriadis, pareil, il ne fréquente pas le même milieu. Gorz a lu le livre La société imaginaire, c'est ça ? Le livre fondamental de Castoriadis, il l'a lu, il a dit que c'était très bien, mais ça s'arrête là, quoi. Il y a des choses comme ça, c'est des milieux différents. Et aussi des barrières culturelles. Par exemple, avec Illich, au départ, n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à apprécier Illich parce qu'il appartient à un autre monde culturel, il n'est pas marxiste, sa critique des institutions n'est pas radicale, elle n'est pas anticapitaliste. Et Gorz rencontre Illich au Nouvel Observateur pour un entretien. Il recueille ses propos, il ne les a jamais publiés.
Et donc, vous disiez donc un entretien avec Illich qui n'a jamais été publié.
En 71, Gorz n'a jamais publié, donc Bosquet n'a jamais publié un entretien avec Illich parce que il le comprenait pas. Et en 72, il lit une ébauche de la convivialité et là, il trouve que c'est vraiment très, très bien. Très, très bien. Il en publie des extraits dans le Nouvel Observateur, mais il traduit. Alors, il traduit à sa façon. Et Illich envoie une lettre furibonde au Nouvel Observateur en disant « Mais vous avez traduit comment ? Vous ne représentez pas du tout mes idées. » Et là, commence un dialogue entre les deux. Et Gorz lui dit « Oui, mais j'ai amélioré à la sauce pour qu'on comprenne. On ne peut pas comprendre, nous, ça. » Et donc, c'est intéressant. Il y a vraiment une barrière culturelle. Bon, après, ça se passe bien et deviennent de grands amis. Et voilà. Alors, Illich est un personnage très intéressant, très curieux. C'est un prêtre qui est prêtre aux États-Unis. Ensuite, il va au Mexique pour former des missionnaires des missionnaires en fait américains qui vont porter la bonne parole entre guillemets aux États-Unis, et Illich se radicalise là-dessus et commence à faire une critique de l'Occident, au fait de la technologie occidentale qu'on prétend porter au tiers monde, etc. Et organise à Cuernavaca, où il habite, il organise des séminaires où il y a des tas d'intellectuels essentiellement américains et européens qui y vont. Gortz est invité en 1974. Ce sont des séminaires qui donnent lieu à des livres. Et Illich devient un personnage, un auteur très connu, très populaire en France à partir des années 70, grâce aux éditions du Seuil et grâce à la revue Esprit. C'est en fait les milieux catholiques qui diffusent la pensée d'Illich. Le Nouvel Observateur arrivant en retard, et Gortz aussi arrivant en retard.
Est-ce qu'on peut juste terminer en parlant de Dorine, sa femme qui a toujours été là pour lui, qui l'a aidé dans son travail, enfin en tout cas qui lui servait par moments de secrétaire, mais qui n'a pas été toujours très... enfin un peu dur dans la lettre AD, justement, il lui explique... Il s'excuse avec un peu de retard de ne pas lui avoir adressé la parole pendant plus de 3 jours parce qu'il était trop pris dans sa réflexion, dans sa pensée. Et pourtant, on a l'impression que dès qu'il sort de son activité salariale de journaliste en 80, il n'est là plus que pour s'occuper d'elle.
Oui. Non, mais Gortz est quelqu'un quand même de spécial. Hein. C'est un névrosé de l'écriture. Il n'a fait que écrire et il a eu une jeunesse quand même assez névrosée. Et il a eu la chance de rencontrer cette femme. Ceci dit, il avait un amour démesuré pour elle, un amour fusionnel. Tout le monde le remarquait, hein, c'était flagrant. Et dès que cette femme, dès que Dorine a eu des problèmes de santé graves, elle avait une maladie chronique, Gortz a pris sa retraite et s'est occupé d'elle le restant de ses jours. Donc à partir de 60 ans, il s'est occupé d'elle en allant vivre à la campagne. C'est une femme qui souffrait tout le temps. Elle avait, à cause d'une myélographie, c'est un produit de contraste qui s'était enkysté dans la nuque et qui lui créait des douleurs importantes à intervalles assez réguliers et qui était souvent couchée, qui... Bon voilà, donc il s'est vraiment occupé d'elle parce qu'il l'aimait de manière démesurée. Gortz a toujours eu l'idée de suicide, toujours. Au départ, c'est parce qu'il ne se sent pas exister. Il a eu du mal à avoir une identité tiraillée entre son père et sa mère. Donc au départ, c'est une névrose, c'est vraiment une névrose. Il ne s'est pas suicidé, voilà, et donc il arrive à la fin de sa vie en ayant toujours cette idée, mais qui prend alors du coup à la fin de sa vie une autre dimension, puisque ça devient l'idée que on maîtrise sa vie et que pour moi c'est très très bien de mettre fin. Si ma femme est au bout du rouleau, quoi. Je me vois pas en train de survivre à elle, et je pense que c'est vraiment sincère. Donc le suicide final a une autre signification que l'idée de suicide qu'il a à 20 ans.
Je voulais juste évoquer quelque chose qui est au moment de son, enfin cette idée de retraite en fait, qu'il prend aux années 80. Qui est quand même le départ d'une quasiment d'une deuxième vie, enfin de sa deuxième vie à la fois. Donc on l'a vu avec son épouse dont il va s'occuper quasiment à plein temps, mais il n'a jamais autant écrit finalement qu'à partir du moment où il se met en retraite.
Ben, ce n'est pas étonnant, puisqu'il a le temps. D'ailleurs, il l'a dit, un journaliste. Mais moi, j'ai toujours rêvé de ne pas avoir à travailler pour manger et pouvoir faire ce que je veux. Là, maintenant que je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Et je crois qu'il a écrit plus de livres à la retraite qu'avant. Ben, il avait le temps, tout simplement. Sa théorie correspond bien à ce qu'il a vécu. Hein. Le journalisme, c'est un travail alimentaire, c'est tout.
Oui, mais il arrive quand même à faire passer des choses quand même dans son...
Il exagère un peu parce qu'au Nouvel Observateur, il a quand même beaucoup écrit sur l'écologie, ce qui n'a d'ailleurs pas plu. Il a mené des campagnes anti-nucléaires, ce qui n'a pas plu non plus. D'ailleurs, il a été mis sur le côté, hein, sur la touche. Donc, au Nouvel Observateur, il était suffisamment important dans le magazine pour qu'il écrive ce qu'il veut, hein, ce qu'il voulait. Hein, donc, nuançons.
Oui, nuançons. Et son travail au temps moderne, quand même, lui permettait aussi, puisque c'est aussi...
C'est un travail militant, là, au temps moderne, oui.
Mais il y retrouvait quand même son compte. Il y avait pas
au temps moderne, voilà, oui. Voilà. Absolument. Oui, donc il faut nuancer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.